France Inter. Marion Lourd, le téléphone sonne.
Donnez votre sang. Oui, je sais, vous avez déjà entendu le refrain. C'est le même tous les étés, ça revient tous les ans. Sauf que là, c'est différent. Avec la reprise des opérations dans les hôpitaux, les besoins de sang augmentent. Mais avec la pandémie, les réserves baissent. Les collectes de sang sont beaucoup moins venues à vous dans les entreprises, les universités aussi. Avouez qu'après plusieurs confinements, on préfère se promener dehors que de s'agglutiner dans un centre de don avec des inconnus. Et puis, il y a toutes ces questions. Et si je vais tendre mon bras et que je suis malade de la Covid sans le savoir? Et si je viens de me faire vacciner? Avec tout ça, c'est vrai, on s'est un peu relâché, mais nous en avons besoin de ce sang. Produits sanguins, plaquettes, plasma contribuent à soigner 1 million de personnes chaque année. Si vous avez l'âme d'un super-héros, dites-vous même qu'avec une heure de votre temps seulement, vous pouvez sauver 3 vies. Alors, don de sang, question, mode d'emploi, c'est le thème du Téléphone Sonne ce soir. C'est votre émission sur France Inter et c'est parti.
Le Téléphone Sonne. 01 45 24 7000.
Et Pascal nous a appelé de Lyon. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
On démarre cette émission avec vous.
Bonsoir à tous. De brèves questions. Je suis vacciné Janssen depuis le mois de mai. Est-ce que je peux donner mon sang? Et deuxième question, est-ce que le Covid-19 est transmissible par le sang?
Alors, merci pour vos deux questions, Pascal. Pour vous répondre ce soir, François Toujas, président de l'établissement français du sang, bonsoir.
Bonsoir.
Et Pascal Morel, médecin et directeur de la sécurité des produits sanguins de l'établissement français du sang. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Je vais commencer peut-être par Pascal Morel pour répondre à ces questions très pratiques de Pascal.
Oui, bien sûr. Merci. Donc, très bonne question. Question qui a beaucoup circulé sur la vaccination et le don du sang. Donc, aujourd'hui, on est complètement rassuré sur le fait que le vaccin utilisé en France, donc les 4 plateformes vaccinales qui sont utilisées en France, n'ont pas d'influence sur le don du sang. Et donc, le vaccin est parfaitement autorisé pour donner son sang. Donc, ça, c'est la première question pour Pascal. Et la seconde, c'est la question de la transmissibilité de la maladie par la transfusion sanguine. C'est une question qui s'est posée dès l'origine, dès l'apparition du virus. Et les travaux qui ont été menés jusqu'à ce jour montrent que ce virus, qui est un virus respiratoire, n'est pas transmissible par la transfusion sanguine. En tout cas, il ne l'a jamais été, malgré l'importance de l'épidémie. Et donc, nous sommes de ce côté-là également rassurés. Pour autant, nous continuons à prendre des précautions, puisque le virus est arrivé encore, apparu relativement récemment, et qu'il nous apparaît nécessaire de rester prudent. Mais on peut donner son sang, il y a quelques règles à respecter, et le virus n'est pas transmis.
Alors voilà, pour être tout à fait pratique, donc pas besoin d'un test avant d'aller se faire prélever, avant d'aller donner son sang.
Non. Non, nous, les précautions qui sont prises, c'est-à-dire qu'on interroge les donneurs qui se présentent à nous pour s'assurer qu'ils n'ont pas eu un contact dans immédiatement avant le don, et on leur demande surtout de nous tenir informés de ce qui pourrait se passer dans les jours qui suivent le don, de manière à ce que si jamais ils venaient à déclarer la maladie, eh bien nous puissions prendre des précautions par rapport aux produits qu'ils ont donné.
Et là, ils seraient détruits?
Alors, ça dépendra de la date, mais effectivement, si les symptômes sont apparus 48 heures avant le don, on détruira les produits sanguins, oui.
Et donc, si moi, j'ai eu la Covid, est-ce que je peux donner mon sang 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine après?
14 jours
d'attente.
Oui, on attend 14 jours après la fin des symptômes pour pouvoir redonner son sang.
Et alors tout ça, est-ce que ça a une influence, ces nouvelles règles, Pascal Morel, sur l'état des réserves que vous avez aujourd'hui à l'établissement français du sang?
Alors effectivement, la situation est fragile, je vais dire. Elle est fragile puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, l'été est une période difficile pour la collecte. Nous sommes dans une situation encore plus difficile. Tout d'abord parce qu'une consommation importante de sang dans les hôpitaux, qui est un effet rattrapage par rapport à des interventions qui n'auraient pas pu se faire. Ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième point, c'est aussi notre difficulté à faire venir des donneurs en nombre suffisant. Donc je profite évidemment de cette émission pour dire qu'il faut se mobiliser. Que les maladies ne prennent pas de vacances, qu'on a besoin en permanence de renouveler par un défi quotidien le don du sang.
En juin, on était à 85 000 poches de sang.
On est même tombé jusqu'à 85 000, ce qui est un niveau historiquement bas. On était ce matin à 93 000.
Ça remonte un peu.
Ça remonte un peu. Pour que nous soyons correctement outillé, je vais dire, il faudrait que nous soyons environ à 100 000 poches. Voilà. Donc le sujet, il est difficile, puisque c'est à la fois un sujet quantitatif, il faut assez de poches de sang, mais c'est aussi un sujet qualitatif, parce qu'il faut les poches de sang adaptées aux besoins des malades.
Et alors, quels besoins? Quel besoin?
Le groupe sanguin? Tous les groupes, mais il est bien évident que sur des groupes comme le groupe O, il faut qu'on fasse attention, et puis sur des produits sanguins particuliers comme les
plaquettes...
Ils sont fortement consommés, mais dans la population française, il y a un peu moins de O en proportion que d'autres groupes sanguins. Ça, c'est par exemple un des premiers sujets. Un des deuxièmes sujets importants pour nous est qu'évidemment, et vous le rappeliez, les produits sanguins ont une durée de vie très limitée. Par exemple, les plaquettes, c'est 7 jours. Et donc, c'est bien un défi quotidien qui nécessite la mobilisation de l'ensemble de nos collaboratrices et nos collaborateurs. Et puis évidemment, on dit aussi aux Français, les collectes estivales existent, venez malgré les vacances, ou à cause des vacances, ou grâce aux vacances, venez donner votre sang.
Mais c'est vrai qu'il y a eu effectivement moins de collectes dans les entreprises cette année, du fait des différents confinements. Là, effectivement, vous êtes présent sur les plages, sur les lieux de vacances.
Alors, on est présent un peu partout. Je crois que lundi, on sera à Sainte-Marie-la-Mer, Île-d'Oléron, Île-de-Ré, etc., etc. Mais on est partout, dans toute la France. Parce qu'il est nécessaire de collecter, dans une année qui a été extrêmement difficile pour deux raisons. Nous n'avons pas pu collecter dans des entreprises à cause du télétravail. Et puis, un deuxième point qui est inquiétant et qu'il faudra améliorer, le don du sang, ça parle aux jeunes. 30% des donneurs ont moins de 30 ans. Et c'est vrai que la fermeture des universités et des écoles cette année a eu comme conséquence que nous avons eu moins de jeunes. Et donc, il est important de dire aux jeunes, de s'adresser aux jeunes et leur dire, écoutez, pendant les vacances, venez donner.
Et est-ce que là, vous avez retrouvé les 10 000 dons par jour dont vous auriez besoin, a priori, pour avoir des réserves correctes ?
Nous sommes en train de les retrouver. Il vaut mieux être à 93 000 qu'à 85 000, quoi qu'il en soit. Le message que je fais passer aujourd'hui est un message d'attention. On a une vraie responsabilité, aussi citoyenne, de dire il est nécessaire de continuer à se mobiliser malgré le déconfinement, malgré le fait qu'on a envie de faire plein d'autres choses. Le don du sang doit s'inscrire dans la vie parce qu'il est important que de pouvoir faire face aux besoins qu'ont les malades pour pouvoir se soigner.
Et qu'on a peut-être un peu peur aussi d'aller dans les centres, parce qu'un de vos slogans là cet été, c'est de dire on n'a pas besoin de passe sanitaire pour aller dans les centres. Alors quoi, est-ce que je peux me tomber sur un cluster? Est-ce que je peux être contaminé en allant donner mon sang?
Alors, il est bien évident que nous avons, dès le début d'ailleurs, mis en place toute une série de mesures permettant de limiter le risque et de faire en sorte que les donneurs soient pris en charge le mieux possible. Les donneurs, les salariés de l'établissement et puis aussi les bénévoles. Donc on rappelle qu'effectivement, nous avons mis en place une série de mesures, notamment les rendez-vous permettant de mieux gérer la file d'attente des donneurs, que le masque est obligatoire et qu'il y a un respect strict des gestes barrières. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Vincent nous appelle de Belfort. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci de prendre ma question. Je vous appelle parce que j'ai voulu, il y a quelques semaines, donner mon sang. Et il y a quelques années, déjà, on m'avait dit, puisque vous êtes homosexuel, vous ne pouvez pas donner votre sang. Et le gouvernement de Madame Buzyn avait communiqué sur le fait que maintenant, les restrictions étaient identiques pour les hétérosexuels que pour les homosexuels. Donc, je suis allé dans un centre de prélèvement. Et là, la doctoresse m'a dit, très embêtée, malheureusement, la loi est passée, mais pas les décrets d'application. Et je ne peux donc toujours pas prendre votre sang. Alors, bien que je sois du groupe O et que je sois tout à fait disposé à donner mon sang dans une relation exclusive depuis plus de 4 mois, je suis toujours dans l'impossibilité de donner et bien embêté. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que cette interdiction, parce que c'en est une, va être levée ?
Merci pour votre question, Vincent. Pascal Morel, c'est vrai que le Conseil constitutionnel vient de valider la loi sur la bioéthique, donc normalement, les personnes homosexuelles devraient pouvoir donner leur sang même sans période d'abstinence, ce qui était requis jusqu'ici.
Alors, je vous propose une réponse à deux voix, mais je vais pas commencer sur l'aspect médical. Je voudrais juste rappeler que le don du sang répond à un certain nombre de règles qui sont d'abord et avant tout des règles de sécurité. Et chaque fois qu'on est obligé de demander à un donneur de, de suspendre la possibilité de donner, c'est que derrière, nous avons un raisonnement qui est un raisonnement d'abord médical et un raisonnement de sécurité. Donc, la relation sexuelle entre hommes est une cause de contre-indication qui était définitive jusqu'à un passé très récent, qui a d'abord été élargie pour permettre que les donneurs puissent effectuer ce don s'ils n'avaient pas eu de rapport sexuel avec un autre homme depuis 12 mois, et puis on a encore franchi un pas pour arriver à 4 mois. Et donc, ce qui conduit à cette levée de contre-indication au don, c'est l'ensemble des informations qui nous ont permis d'avancer sur la conviction que la sécurité était garantie. Actuellement, effectivement, nous sommes dans une phase nouvelle d'avancée, et je propose à Monsieur Toujas de prendre la suite.
Donc Monsieur Toujas, en tant que président de l'EFS.
Alors d'abord, c'est pas le président de l'EFS qui décide. Hein. Celui qui décide, c'est évidemment
c'est le
ministre,
et
c'est important. Et c'est important de le dire par un arrêté. Plusieurs choses. Tout d'abord, depuis 2016, il y avait une ouverture possible de donner, quand on est un homosexuel, homme ayant des relations avec un homme, de donner son sang. Vous le rappeliez d'ailleurs, lors des débats sur la bioéthique, le ministre Olivier Véran s'est engagé à égaliser les conditions d'accès aux dons entre les hétérosexuels et les homosexuels au début de l'année prochaine.
C'est donc jusqu'ici, il fallait un certain nombre de mois d'abstinence.
2016, 12 mois d'abstinence. Depuis 2019, mise en place au 1er février, je pense, 2020, c'était 4 mois d'abstinence. Il y a encore, possiblement, quand on donne cette règle, possiblement, moi ça je peux le comprendre, un aspect peut-être discriminatoire. Peut-être. Moi je voudrais rappeler deux choses. Tout d'abord, que le don du sang, c'est pas un droit. Vous voyez, j'ai pas le droit de donner mon sang. C'est une mesure, c'est un geste altruiste que je fais pour sauver des vies. Et le droit, il est bien chez le patient de recevoir le produit sanguin le plus convenable et de qualité possible.
Vous comprenez aussi que ces personnes-là, elles veulent justement faire ce geste altruiste.
Mais par ailleurs, moi je comprends que ces personnes-là disent « je veux participer à ça, il est important que ça se fasse ».
Et si elles le font, elles ne pensent pas mettre en danger quelqu'un.
Par ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, ce qui a été démontré par les spécialistes, c'est que ce qu'on appelle le risque résiduel a beaucoup baissé, que c'est un moment important d'ouverture dans lequel il faut surtout ne pas pouvoir tomber dans de la discrimination. Et donc le ministre a annoncé, et je crois que c'est heureux, qu'il y ait une ouverture large qui égalisera les conditions d'accès aux dons des hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, avec la totalité des autres cas.
Donc ça, c'est quand la loi sur la bioéthique sera appliquée ?
C'est pas quand la loi sur la bioéthique sera appliquée, c'est lors du débat sur la bioéthique, le ministre a annoncé qu'il demanderait
un
par
amendement
arrêté.
A été adopté.
La loi a été adoptée, mais c'est pas la loi, ce sera un arrêté que le ministre prendra, il s'y est engagé, afin de faire égaliser ses conditions d'accès aux dons au début de l'année 2022.
Et donc vous en espérez beaucoup ? C'est-à-dire que vous espérez que beaucoup de personnes homosexuelles vont venir donner leur sang ? Est-ce que vous pensez que ça va faire des dizaines ?
D'abord, on ne fait pas de comptabilité sur ces sujets à l'établissement.
Évidemment.
Ce qui est important, c'est surtout qu'on se dise voilà, que des personnes qui pouvaient se sentir exclues, qui ont envie de donner, donnent. Parce que le don du sang doit inclure. Et donc, on est heureux qu'on puisse améliorer, accompagner cette évolution vers une ouverture.
Alors, sur les publics concernés par le don du sang, j'ai pas mal de questions sur Internet, des gens qui ont écrit à France Inter. Thierry dit « Je prends des antidépresseurs depuis plusieurs années, puis-je donner mon sang ?» Alors, Pascal Morel.
Alors, on peut pas. Enfin, c'est trop difficile de répondre globalement à la question. Déjà, le fait d'être déprimé est pas une bonne chose pour donner son sang.
Pourquoi ça déprime encore plus ?
Bah oui. Enfin, c'est-à-dire qu'on a besoin de donneurs de sang en forme et en bonne santé. En plus, les traitements qui peuvent être pris pour la dépression sont des traitements qui peuvent avoir une toxicité par eux-mêmes. Et donc, lorsque l'on va rencontrer le médecin, alors je suis très très prudent parce que on sait sait que les Français sont très déprimés et qu'on est gros consommateurs d'antidépresseurs. Donc, le mieux à faire quand on est dans ce cas, c'est de se présenter pour un don ou d'appeler l'établissement français et de dire voilà, je prends des médicaments, on regarde de quel médicament il s'agit et puis on prend la décision à ce moment-là pour pouvoir autoriser ou non le don. Et à nouveau, hein, je répète, le but est d'abord que le donneur continue à se sentir bien, qu'on ne prenne pas de risque pour lui, mais surtout qu'on ne prenne pas de risque pour le receveur. Je vous rappelle qu'un don de sang d'un adulte peut parfaitement aller à un bébé, à un nouveau-né. Donc on comprend bien que les précautions sont prises systématiquement dans ce cadre.
Que peut-être donner des antidépresseurs à un bébé, ce n'est pas forcément une bonne idée. Et Clara nous demande si on peut donner son sang après un cancer et une chimiothérapie.
Non.
Plus jamais ou...
Alors, le plus jamais, on aimerait non. On appelle ça une contre-indication permanente. On ne dit pas définitive, on dit elle est permanente. Parce qu'on espère comprendre. Si vous voulez, l'inconvénient pour les cancers, c'est que l'on ne comprend pas encore bien leur survenue. Et donc, on peut toujours imaginer que ce qui est à l'origine de leur survenue puisse être transmissible. Et donc, dès lors qu'on a un doute, le doute bénéficie au receveur. Et donc, effectivement, les gens qui ont fait ou qui ont eu un traitement pour un cancer ne peuvent pas donner leur sang pour l'instant.
Alors, question de Cécile aussi, qui a écrit à France Inter. Pourquoi ce délai entre une infection et un don si le virus ne se transmet pas par le sang ? C'est vrai que c'est des précautions que vous prenez, mais...
Non, mais ça, c'est bien sûr, hein, on aimerait bien... Alors, je vais redire les décisions qui sont prises ne sont pas prises par l'établissement français du sang seul. Hein. Nous sommes accompagnés, bien sûr, par la Direction Générale de la Santé et le Haut Conseil de Santé Publique pour que ce genre d'action soit concerté. D'abord parce que nous ne souhaitons pas avoir des contre-indications qui nous font perdre trop de donneurs, sinon on se retrouve dans les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire avec des stocks bas. Et c'est dangereux pour les receveurs, pour les malades potentiels. Mais on ne peut pas non plus prendre de risque. Et donc là, aujourd'hui, si vous voulez, on a trouvé une certaine proportionnalité aux actions qui nous permettent d'être à la fois dans la précaution, mais sans exagérer.
Alors, André nous a appelé France Inter. André qui habite dans le Finistère. Bonsoir, André.
Oui,
c'est à vous.
J'étais dans le Finistère et là, je suis revenu dans le Morbihan.
Ah, bon. c'est pas si loin.
Quand j'entends les discussions, on est bien en France. Tout est compliqué dès que vous voulez faire quelque chose, etc. C'est toujours technique.
On comprend qu'il y a des règles aussi, André, quand même, pour protéger les gens.
Oui, oui. Non, mais en France, on est souvent excessif. Moi, je prendrai un exemple très, très simple, dont on n'a pas parlé. Dès qu'on a plus de 70 ans, on ne peut plus donner son sang. Moi, j'ai donné mon sang. Actuellement, je fais des analyses de sang régulièrement, parce que à 75 ans, j'ai disputé hier après-midi, j'ai disputé pendant une heure et demie un match de football. Mon cardiologue me signe tous les papiers pour que j'ai un certificat pour pratiquer le sport. Je fais donc ces analyses de sang régulièrement. Je n'ai aucun problème. Et je suis, en plus, je vais être éducateur sportif. Je vais continuer à être éducateur sportif. Mais je n'ai pas le droit de donner mon sang. Alors que vous avez des gens de 50 et 60 ans, bon, on sait qu'il y a des pathologies. Très bien. Mais... si vous voulez, vous avez des gens qui sont pas spécialement en forme ou qui sont sportifs et tout. Je mange bio pour rajouter aussi par rapport à ça. J'ai mon alimentation, mes analyses de sang. Là, actuellement, je fais régulièrement, c'est une histoire de contrôle. Je fais des ECG d'effort régulièrement parce que je suis éducateur. Je joue au futsal à plus de 75 ans.
Vous êtes en forme, André. On a bien compris.
Oui, mais le problème, c'est carrément, c'est en France, tout est compliqué. C'est aberrant de voir que il y a même des gens qui sont plus âgés que moi, qui ont 80 ans, qui sont en parfaite santé, etc. Mais on a fixé la règle à 70 ans, alors que sur le plan physiologique, je dis bien sur le plan physiologique, il y a des personnes qui ont, comme moi, qui sont plus âgés et qui physiologiquement sont dans de meilleures conditions que des gens de 50, 60 ans qui donnent leur sang.
Merci pour votre témoignage, André.
Voilà.
Merci pour votre témoignage. On va écouter peut-être Pascal Morel et ensuite François Toujas.
Oui. Bien sûr. D'abord, on est ravis hein, que André soit en pleine forme.
Bravo.
Visiblement, en grosse forme. C'est très bien.
En plus, il est très engagé. Hein, donc,
oui,
je trouve que c'est une très bonne chose. Et donc, moi, j'aurais juste envie de lui demander de poursuivre son engagement en nous aidant à recruter des jeunes et en faisant un peu de prosélytisme du don du sang autour de lui. Et ça ne peut nous rendre que du bien. Si en plus, il veut s'investir dans les associations de donneurs hein, qui font un travail remarquable pour nous, ce serait aussi une très bonne chose. Mais en effet, il a raison. raison. Il peut être, lui, en très bonne forme et sur le plan physiologique, se sentir parfaitement bien. Simplement, on a un petit doute sur la qualité de son sang. Il ne faut pas qu'il nous en veuille, mais il y a des maladies qui sont liées au vieillissement. Il y a même des choses qui ne sont pas des maladies, mais qui sont liées à la qualité de nos tissus, y compris du tissu sanguin, mais pas uniquement, hein, qui apparaissent avec l'âge. Et il y a encore une dizaine d'années, c'était 65 ans l'âge limite, il a été repoussé à 70 ans pour tenir compte justement du vieillissement en meilleure santé, hein, tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc, il a fallu établir une règle, la règle est à 70 ans, et aujourd'hui, elle est vraiment pondérée. Alors, je ne veux pas entrer dans le détail hein, des raisons qui nous poussent à ça, mais médicalement, la qualité de son sang à André est moins bonne aujourd'hui qu'elle n'était quand il avait 60 ans. C'est pas discutable. Et donc, ça fait partie des précautions que l'on doit prendre pour préserver, je répète, la santé de ceux qui vont le recevoir.
François Toujas, en tant que président de l'EFS, vous vous dites pas parfois quand même, est-ce qu'on prend pas un peu trop de précautions? On a besoin de sang, est-ce qu'on pourrait pas être un peu plus souple sur les règles?
Alors, évidemment que le sujet essentiel, c'est que la sécurité transfusionnelle, c'est d'abord avoir assez de produits sanguins. Ça, c'est évident. Après, je voudrais répondre à André la chose suivante, c'est-à-dire que la réglementation ou les contrôles dans la collecte ou dans l'administration du sang, c'est pas une spécialité française. Hein, c'est-à-dire que on a bien évidemment tout un ensemble de règles dont je voudrais quand même rappeler qu'elles sont là pour protéger le donneur.
C'est les mêmes règles dans tous les pays, puisque vous dites que c'est pas une spécialité.
C'est à peu près les mêmes règles dans tous les pays. C'est pour protéger évidemment le donneur, pour protéger, s'assurer de la qualité des produits, et puis aussi et surtout, rappelons-le, parce que quand même, l'EFS a eu 22 ans et est né en 2000 comme une production de l'affaire du sang contaminé, avec quand même quelque chose qui n'est plus jamais ça. Mmh. Et donc, cette réglementation est importante. Après, je voudrais dire aussi à André, très gentiment, que quand même, le modèle français tel qu'il apparaît aujourd'hui, qui est un modèle qui allie l'anonymat, le volontariat, le non-profit, le bénévolat. Et moi, je suis très fier d'être dans un service public, à la tête de ce service public. Est un modèle qui, non seulement est efficace, puisqu'on n'a pas, on a des tensions sur le sang, mais aucun malade n'a aujourd'hui manqué de sang. Et puis, et c'est un deuxième point, alors on s'en aperçoit peut-être pas, et il faut faire un peu quand même faut dire aussi ce qui marche en France, et ce modèle marche, et moi j'ai eu la chance d'aller au Liban, et les Libanais ils disent, si on avait votre modèle, ça serait bien. Aux États-Unis, on nous dit, on n'a pas le système d'hémovigilance que vous avez, on a une coopération forte avec les Chiliens qui nous disent, on veut construire votre modèle.
Vous voulez dire qu'on fait l'envie du monde entier?
Alors, je suis pas en train de dire ça, je dis simplement qu'on a appris de l'histoire en essayant de construire quelque chose qui allie à la fois des valeurs de solidarité, d'humanisme, mais aussi d'efficacité dans le traitement de sécurité. Et donc, c'est ça aussi la réalité du don du sang en France. Je voudrais dire aussi que ce système ne peut fonctionner que parce qu'on est dans une relation exigeante, forte, avec les bénévoles et les associations. Donc on est aussi dans quelque chose qui crée de la citoyenneté, qui crée du vivre ensemble. J'étais président pendant, malheureusement, la période des attentats, et on a pu voir à quel point le don du sang est aussi une manière d'exprimer le fait que on vit dans la même communauté, quoi.
D'ailleurs, on a vu les files d'attente qu'il y a eu pendant le premier confinement aussi, devant les centres de dons. Vous parliez de l'international. Il y a un auditeur qui nous a appelé, qui dit quand on a vécu en Angleterre plus d'un an, on ne peut pas donner son sang car il y a un risque d'avoir le bacille de Creutzfeldt-Jakob. Est-ce toujours le cas?
Oui, Pascal peut peut-être répondre à cette question.
Oui, alors effectivement, il y a encore une précaution qui est prise pour la période pendant laquelle a circulé le nouveau variant de la maladie Creutzfeldt-Jakob, puisque vous savez qu'il était transmissible par l'alimentation et que les durées d'incubation sont extrêmement longues. Et donc effectivement, il y a une période d'exclusion quand on a vécu plus d'un an en Angleterre, en effet, oui.
Même si c'est récent.
Alors non, quand c'est récent, non.
Donc c'est pendant une période donnée.
C'est ça, absolument. C'est pendant la période de circulation de l'agent, hein, où effectivement on a toutes les personnes qui ont voyagé dans cette période sont contre-indiquées. Oui.
Il y a aussi plusieurs questions d'auditeurs qui ont été transfusés et qui demandent pourquoi ils ne peuvent pas donner leur sang.
Oui. Alors la raison est à peu près identique et c'est né au moment de la maladie Creutzfeldt-Jakob justement où on mettait en évidence c'est la fin des années 90 où on mettait en évidence donc une maladie qui pouvait avoir des délais d'incubation extrêmement longues. Et donc, il faut imaginer que le don du sang pouvait se comporter comme un dispositif aggravant l'épidémie, faisant que un donneur de sang qui a été transfusé pouvait à son tour transfuser permettre la transfusion de l'agent à toutes les personnes qui allaient recevoir, qui à leur tour pouvaient donner leur sang dans l'esprit, vous savez, du retour de la dette, hein. Et donc on crée une forme de chaîne de contamination qui a conduit à ce qu'on décide que les personnes transfusées cessent de donner leur sang en impasse épidémiologique.
Là aussi pour toute leur vie.
Voilà, alors à nouveau, c'est permanent, mais c'est quelque chose qui est réévalué très régulièrement. La dernière réévaluation date de 2018. Donc là, ça a été fait par le Centre National de Référence en collaboration avec l'Agence du Médicament. Et le choix a été de dire qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore requises pour autoriser de revenir sur cette mesure. Mais on voit bien qu'on va y revenir, hein, puisque le temps passe et qu'on a beaucoup d'éléments pour être rassurés au fur et à mesure que les choses avancent.
Sabrina nous appelle de l'Ain. Bonsoir Sabrina.
Bonsoir.
Merci d'avoir appelé France Inter.
Merci de prendre mon appel. Oui, alors ma question porte en fait sur le poids des personnes qui donnent leur sang. Je pèse 47 kilos et je souhaitais donner mon sang. On m'a objecté qu'en fait en dessous de 50 kilos, ça n'était pas possible parce que les pochettes sont calibrées, quel que soit le poids que l'on fait. Et donc pour moi, ça n'était pas possible. Alors, j'ajoute juste une chose, c'est que lorsque j'étais plus jeune, je donnais mon sang et je me souviens très bien, quand on venait nous chercher en entreprise, je suis O positif. Et donc, je donnais régulièrement mon sang. Et effectivement, lorsque je donnais mon sang, ça m'arrivait assez fréquemment d'avoir des étourdissements, voire de m'évanouir. Donc, je comprends qu'on ne prenne pas, en fait, des grosses quantités pour des personnes qui pèsent comme moi 47 kilos. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prélever moins, faire des demi-pochettes, par exemple, pour des poids plumes.
Merci Sabrina. Pascal Morel, on a plusieurs auditeurs et auditrices qui nous ont écrit pour poser cette même question.
Oui, en effet, la raison est technique et réglementaire. Techniquement, il y a des standards pour les poches qui servent à contenir le sang. Ce standard, il dépend pas tant d'ailleurs du volume de la poche que de la quantité d'anticoagulant et de la solution qui va permettre la conservation. C'est-à-dire que les choses sont standardisées, c'est normalisé, hein, c'est normalisé à l'échelle de la planète. Et donc,
dans aucun pays, on ne peut donner son sang quand on fait moins de 50 kilos.
Non. Alors, enfin, en tout cas, dans les pays occidentaux, je ne veux pas aller au-delà, mais la standardisation du prélèvement conduit à ce que le volume défini pour le don est calibré. Et le deuxième élément, c'est que on ne peut pas prélever plus de 13% de la masse sanguine du donneur de sang. Pour des raisons simplement, là, à nouveau, de sécurité pour lui, on sait que c'est la limite au-delà de laquelle il ne faut pas aller si on ne veut pas justement qu'il ait d'effet secondaire au don. L'idée d'avoir des malaises est une chose, mais ce que l'on redoute le plus, c'est l'anémie des donneurs et la carence en fer. Donc, pour éviter ça, effectivement, il y a les deux. C'est un effet qu'il faut comprendre. C'est d'une part un volume limité pour le donneur et un volume obligatoire pour la qualité du sang que l'on va utiliser. Et donc, effectivement, en dessous de 50 kilos, on ne peut pas donner son sang. C'est une vieille histoire à laquelle on travaille également, mais qui, pour l'instant, ne peut pas être résolue autrement que par la prise de poids. C'est ce que je propose à notre auditrice.
Alors, en dehors des personnes qui sont trop légères, si des personnes sont sujettes au malaise, Pierre nous a écrit à France Inter pour demander pourquoi les pochettes ont toutes la même contenance. Je m'évanouis systématiquement à 300 millilitres. Est-ce qu'on peut faire des pochettes plus petites ?
Voilà, vous avez j'ai donné la réponse. Non, on a standardisé.
Même s'il fait plus de 50 kilos.
Oui, on va lui. Enfin, si vous voulez, si on prélève moins de sang, l'inconvénient qu'il y a, c'est que on va perdre en qualité. Alors, on peut faire. Si c'est 300 millilitres, c'est encore. C'est pas mal, 300 millilitres, ça doit être possible. Mais je suis plus inquiet du fait qu'il puisse être aussi sûr que ça, que c'est les 300 millilitres qui provoquent son malaise. Il faudrait peut-être travailler un tout petit peu ça. Je ne suis pas certain que chez un garçon qui fait plus de 50 kilos, ce soit le volume qui soit en cause. Je chercherais plutôt autre chose.
Pierre, si vous nous entendez, allez peut-être voir votre médecin. Paul nous a appelé de Mayenne. Bonsoir Paul.
Oui, bonsoir.
Vous avez une question ?
Oui, je suis fumeur régulier de cannabis et je voulais savoir s'il était possible de donner mon sang.
On rappelle que c'est illégal quand même, mais est-ce que vous avez... Merci pour votre question, Paul. Est-ce que vous avez une réponse pour Paul, Pascal Morel?
Alors, je ne pense pas qu'on puisse poser la question de cette façon. Hein. Je ne crois pas que la question soit posée à l'occasion de l'entretien, puisque effectivement, il est sous-entendu que non. Hein. En tout cas, dans tous les cas, je propose
rappeler. Parce que si c'est pas de la drogue par intraveineuse, il y a moins de danger.
Alors oui, mais on sait bien que ce sont des drogues qui ont un effet systémique. Hein. Donc on peut imaginer bien sûr qu'il y a des molécules qui circulent. Et là encore, alors il faut être prudent parce que la quantité circulante transmise dans une masse sanguine va pas avoir le même effet que chez celui qui l'a consommé. Mais si Paul nous donne du sang, il est gentil de ne pas fumer au moins 48 heures avant de venir donner son sens, ce sera parfait.
François Toujas, est-ce que parfois vous vous dites, on en parlait déjà un peu tout à l'heure, mais est-ce que parfois vous vous dites ou vous faites l'avocat de certains changements dans les règles ou vraiment vous considérez que celles qui existent aujourd'hui sont les bonnes?
Alors, il y a deux choses dans votre question. Tout d'abord, est-ce que c'est au président de l'EFS de faire les règles? Et heureusement que non. C'est-à-dire qu'il y a une vraie responsabilité née d'ailleurs hein, de ce qu'on a appris de l'histoire, à savoir que celui qui met en œuvre n'est pas celui qui fait les règles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en revanche, la mission de l'établissement, et qui est un défi quotidien, c'est bien de collecter assez de sang pour les malades. Ça signifie que nous devons en permanence nous interroger, communiquer sur le don, et notamment vis-à-vis des jeunes. Et donc, je vous donnais un chiffre qui montre quel est notre défi annuel. Il y a environ 1 600 000, 1 700 000 donneurs, alors donneurs actifs, c'est-à-dire quelqu'un qui a donné au moins une fois par an. 1 700 000. Tous les ans, à cause soit de l'âge, soit d'événements qui vont exclure du don, on a 170 000 personnes qui sortent de cette capacité à donner. Ça veut dire qu'on a 10% de nos donneurs potentiels qui nous quittent. Ça signifie que le renouvellement des donneurs est quelque chose d'extrêmement important. Le renouvellement, il passe par quoi ? Il passe par deux choses. Un, il faut qu'on recrute. Et recruter des donneurs, c'est, en tout cas je suis très 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 attaché à ça, c'est s'adresser essentiellement aux jeunes. Parce que les jeunes sont des donneurs qui, sur une vie, pourront être les donneurs réguliers de demain.
Vous avez fait un petit film promotionnel d'ailleurs récemment sur les réseaux sociaux, c'était votre premier je crois.
Oui, c'était le premier qu'on a fait. Et ça a marché. Et on essaie effectivement d'avoir une communication qui s'adresse aux jeunes. Et même si par ailleurs ça nous interroge, ça nous intéresse, ça nous fait aussi bouger, puisque bon, le don du sang est anonyme, mais les jeunes se prennent en photo et un petit selfie qu'on envoie à ses copains. Bon, voilà. Okay. Donc on a un vrai sujet de recrutement en s'adressant prioritairement aux jeunes. Non seulement on a un sujet de recrutement, mais on a aussi un sujet de fidélisation. Il faut non seulement que les gens viennent, mais il faut aussi qu'ils reviennent. Et la fidélisation, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à mieux appréhender ce qu'on appelle l'expérience donneur. C'est un programme chez nous qui s'appelle Innovadon, qui est de voir comment on peut améliorer les conditions d'accueil, de prise en charge des donneurs pour que quand les donneurs viennent, ils disent « j'ai passé un super moment, je vais revenir ». Donc ce sujet du recrutement et de la fidélisation est un sujet qui est essentiel parce que on voit bien que nous devons en permanence améliorer, augmenter la population qui est capable et qui vient effectivement donner.
Donc, il faut faciliter évidemment l'accès à la collecte pour les personnes qui veulent donner.
Oui.
André nous demande, elle nous a écrit à France Inter, pourquoi il n'y a pas de possibilité de donner son sang le samedi? Quand j'étais en activité, je n'ai jamais eu le temps.
Il y a des possibilités de donner le samedi, ça dépend des régions, mais il y a des possibilités de donner son sang le samedi, oui.
Bon, alors si vous nous entendez, André...
Alors, je ne sais pas quelle est sa région, mais...
c'est pas précisé, ouais. Mais en tout cas, c'est possible. Jean, peut-on donner dans les hôpitaux privés, demande-t-il?
Alors, je comprends pas bien la question. On peut donner dans les sites fixes de l'établissement français du sang, dans les maisons du don. Il y en a 110 en France.
Il faut prendre rendez-vous en ce moment, non?
Et il faut prendre rendez-vous. Et on pense même d'ailleurs que la généralisation du rendez-vous est une manière de mieux, comment dire, de mieux intégrer le donneur. Et on ne peut pas donner dans des hôpitaux. On donne dans des centres de transfusion. qui sont soit des sites fixes, des maisons du don, soit des collectes mobiles. Je rappelle qu'il y a 40 000 collectes mobiles en France par an.
Il y en a autant que d'habitude cet été, qu'une année normale.
Un peu plus.
Un peu plus, d'accord.
Puisque nous avons essayé de nous mobiliser fortement pour tenter de maintenir, voire d'accroître le niveau des stocks aujourd'hui.
Et ça ne sera jamais soumis à passe sanitaire ? Là, vous avez une garantie
On sait qu'aujourd'hui, nous pouvons faire de cette manière-là. Le sujet pour nous, et je le rappelle, est qu'on peut venir donner son sang, qu'on soit vacciné, qu'on soit pas vacciné. Et il est important de dire que sur ces sujets, nous accueillons tout le monde aujourd'hui.
Pascal Morel voulait dire
oui.
un mot.
Oui, je voulais ajouter que nous n'avons absolument levé aucune des mesures de précaution que nous avions mis en place pour protéger les donneurs, les associations et les personnels.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Voilà. Ouais. Donc c'est important de le souligner. C'est une des raisons pour lesquelles le pass sanitaire n'est pas exigé, dans le sens où nous ne sommes pas un lieu de loisirs ou un cinéma ou un théâtre où je comprends bien que on est dans une situation où on a gardé les mêmes règles aujourd'hui que celles que nous avions auparavant, ce qui n'est pas le cas dans les lieux que je viens de citer.
Murat nous appelle d'Autun. Bonsoir Murat.
Oui, bonsoir. Merci.
Vous avez une question.
Bonjour à tout le monde. Oui, oui.
Bonjour.
Alors, oui, bonjour. Moi, je trouve choquant d'entendre qualifier le sang de produit quand on en parle. N'est-ce pas une ressource pour produit? Pour moi, ça a une connotation de prix, de coût, de... Vous voyez? Et ça rejoint un peu ma deuxième question aussi. J'ai entendu dire qu'une partie du sang collecté était revendue par les collecteurs.
Eh ben on va demander à François Toujas.
Bah oui, alors écoutez Murat, d'abord je pense que vous avez raison parce que nous on parle de produits sanguins et pas de produits puisque je le rappelle, l'établissement français du sang est dans une situation de monopole. Il n'y a pas de prix comme le prix de je ne sais quel produit. Il y a un tarif administratif qui est fixé par un arrêté. On est dans le cadre d'un monopole et pas donc d'une activité concurrentielle. Et
c'est juste pour ça une qu'il précision, faut... pardon. Oui. On peut vendre du plasma quand même ?
Alors, j'y viens.
Pardon.
J'y viens. Ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas un marché. C'est un monopole public. Et c'est important de le dire. Deuxième point, il n'y a pas de prix, mais il y a des tarifs administratifs qui sont donc fixés par un arrêté ministériel. Par exemple, un concentré de globules rouges est cédé à 201 euros la poche aux établissements de santé. Et enfin, parce que c'est un établissement public, il n'y a aucun profit, c'est interdit de faire du profit.
Donc les hôpitaux vous payent et vous gardez l'argent pour faire fonctionner l'EFS. Enfin,
pour payer les salaires, les tests, etc. etc. et autofinancer notre développement, la modernisation. Il n'y a pas donc d'appropriation privée, d'excédent d'ailleurs. C'est important de dire ça. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui n'est pas dans le marché. La deuxième chose, non, en France, il n'y a pas de vente à quelque tiers que ce soit de ces produits. Il n'y a pas de revente de ces produits sanguins, pardon, du sang, pour le dire clairement. Ça ne peut pas exister, ce n'est pas possible.
Et puisqu'on parle d'argent, pas non plus de rémunération pour les dons.
Il n'y a évidemment pas de rémunération pour les dons. On rappelle qu'on a un système français qui est extrêmement exigeant sur ces sujets et que le don, il doit être volontaire, il n'est pas rémunéré et il doit complètement éviter ce qui ressemble près, peu ou prou, à de la marchandisation du corps.
Mais est-ce qu'on peut imaginer des incitations quand même, comme dans certains pays, on voit par exemple pour le vaccin contre la Covid, des tickets de loterie, je pense à des cadeaux, des choses comme ça. Si vous êtes vraiment en déficit de réserve, est-ce que on peut imaginer des petites...
Alors à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, il y en a beaucoup, puisque comme vous le disiez régulièrement, on appelle à la générosité. Nous, notre incitation, c'est d'appeler à la générosité, à la solidarité. Et ça marche. Le deuxième chose qu'il faut dire, c'est que je pense qu'on a peut-être à travailler sur comment on reconnaît les donneurs. Mais la reconnaissance du donneur, c'est pas un cadeau, c'est pas je ne sais quoi. C'est aussi lui dire qu'il est bien accueilli, qu'il faut prendre correctement en charge ce qu'il veut. Et donc, on est quand même très loin aujourd'hui de ce modèle dans lequel, peu ou prou, on aurait des indemnisations qui ressembleraient à de la marchandisation.
Je pense à Strasbourg, par exemple. Je crois qu'on avait des entrées au musée en même temps qu'un
autre. Strasbourg, c'est pas à Strasbourg. On a fait un truc génial. C'est que le musée était fermé. Et comme le musée était fermé, on s'est dit, tiens, si on faisait un truc un peu génial qui s'appelle une collecte de sang dans le musée. Et ça, évidemment, que les donneurs, ils adorent. Quand vous faites une collecte dans les salons de l'hôtel de ville à Paris.
Donc c'est le lieu qui peut être incitatif.
Le lieu est très beau. On fait des collectes à l'Assemblée nationale, on fait des collectes au Sénat, on a fait des collectes à l'Élysée. Ces lieux-là sont des lieux qui, et pour les équipes d'ailleurs, et pour l'ensemble des donneurs, sont des lieux magnifiques.
Pascal Morel, il nous reste très peu de temps, mais je voudrais juste vous parler de cet essai clinique qui a été lancé en avril en Rhône-Alpes, qui consiste à renouveler le plasma des patients gravement malades de la Covid pour éviter l'intubation. Est-ce que ça fonctionne? Vous avez des premiers résultats ou pas?
Alors pas encore de résultats. Hein. C'est une étude qui a débuté donc en début de cette année. Elle a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais en fait elle a été mûre pour être réalisée lorsque nous nous sommes trouvés à l'été et où il y avait donc cette pause dans l'épidémie. Mais je peux en profiter pour souligner le fait qu'il y a eu beaucoup d'essais cliniques qui ont été réalisés avec les produits sanguins. Là, c'en est un en particulier qui s'appelle Covidep, qui est mené par les équipes de Lyon. Il s'agit de faire des échanges plasmatiques à des malades qui sont dans le rush cytokinique. Vous savez, cette période dramatique où les malades s'aggravent et vont en réanimation
au bout de 8 jours, 8-9 jours.
Donc l'idée, c'est de retirer leur plasma et enlever toutes les molécules qui sont fabriquées par le corps et qui provoquent ce rush cytokinique. Et donc le travail est en cours et on a le bon espoir effectivement que ce puisse être un moyen de lutter contre ce désordre immunitaire. Et puis il y a une étude dont on a beaucoup parlé à l'époque qui est Coriplasme, qui était l'utilisation du plasma des donneurs convalescents, qui a été utilisé et qui continue à être utilisé aujourd'hui pour prendre en charge les malades à des phases précoces de la maladie et pour lesquelles on a toujours l'espoir que ce soit efficace.
Merci Pascal Morel, médecin et directeur de la sécurité des produits sanguins de l'établissement français du sang. Merci François Toujas, président de l'EFS. Merci à tous les deux d'être venus sur France Inter. Pour la préparation de cette émission, merci à Pierre Desertaine, Adèle Domas et Zoé Fauché. Grand merci également aux standardistes de France Inter et à Grégory Wallon et Michel Bézikian à la technique aujourd'hui.